Prenons nos Bibles et nous allons commencer une étude dans l'épître de Paul à Philémon. Nous avons fini son épître à Tite et nous allons donc dans les prochaines semaines commencer cette étude dans l'épître à Philémon. C'est une petite épître, mais néanmoins notable et plein de valeur. En fait, chaque mot ayant son poids. C'est pourquoi je voudrais prendre ça doucement et commencer aujourd'hui simplement avec les trois premiers versets et vous parler de l'amour fraternel. Parce que c'est vraiment une épître qui exprime cette relation qu'il y avait entre Paul et Philémon, et certainement c'est une épître qui a été écrite pendant que Paul était en prison à Rome. Peut-être il semble que cette épître, Paul l'a écrite en même temps qu'il a adressé son épître aux Colossiens. Parce qu'il y a ici les mêmes personnes qui sont mentionnées par l'apôtre lorsqu'il a écrit aux Colossiens. Par exemple, ici dans Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre, c'est le chapitre 1 et le verset 23 et 24. Il dit « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ ». Donc il parle là d'être emprisonné à cause de l'Évangile. Il dit, Épaphras te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Peut-être que nous sommes surpris de voir ici mentionné surtout Démas, parce qu'il y avait un moment où Démas avait abandonné l'apôtre Paul pour retourner à ses affaires. Mais néanmoins, ici, dans cette épître à Philémon et aussi dans l'épître aux Colossiens, nous le voyons mentionné. Il y a certains qui supposent que le Seigneur a fait revenir Démas après un certain temps pour servir de compagnon et d'aide à l'apôtre Paul. Quand nous voyons dans Colossiens chapitre 4 et les versets 10 à 14, c'est là que nous voyons les mêmes gens mentionnés par l'apôtre. Verset 10 de Colossiens, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Et voilà encore un exemple. Rappelons-nous que dans le premier voyage de prédication de l'Évangile, lorsque Paul et Barnabas étaient envoyés par l'Église à Antioche, que Marc n'a pas pu supporter et est rentré chez lui. Et pour cela, il y a eu une séparation entre Barnabas et Paul pendant un certain temps. Mais ici encore, nous voyons qu'il y a eu de réconciliation entre les deux. Et ici, Paul salue Marc, le cousin de Barnabas, et l'a trouvé vraiment comme un compagnon de l'œuvre. Et un ouvrier qui était valable, même voulant, lorsqu'il a écrit à Timothée, que Marc le joigne à Rome, lorsqu'il était encore en prison. Et il dit, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Alors c'est pourquoi, et puis dans le verset 11, Jésus appelé Justus, Jésus était un nom commun, comme de nos jours, on a des gens qui s'appellent Josué, peut-être dans d'autres langues. Le nom Jésus, on entend parler du nom Jésus, mais ça signifie Josué ici, appelé justice. Vous savez aussi, ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est l'amour fraternel. Tel est l'amour que Dieu donne ceux qui sont ses enfants et qui sont serviteurs du Seigneur. Il y a déjà cette entente à cause de la grâce de Dieu et à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, verset 12 encore, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Il faut dire qu'au moment où Paul a écrit aux Colossiens, lui-même, il ne les avait pas encore visités. Donc, tout ce qu'il connaissait de ses frères à Colosse, c'était à travers ses autres serviteurs qui lui ont parlé d'eux, et le Seigneur a mis sur son cœur de les écrire pour leur encouragement. Encore, tel est l'amour fraternel lorsque nous constatons qu'il y a d'autres frères ailleurs, même ceux que nous n'avons jamais vus de nos yeux, néanmoins en entendant parler d'eux, notre cœur est attaché à eux et notre désir, c'est pour cette fraternité que le lien en Christ seul nous donne. Et c'est probable que Philémon lui-même était un Colossien et surtout que son serviteur Onésime, qui est la raison pour laquelle Paul écrit à Philémon, parce que Onésime était un serviteur de Philémon et il avait échappé et couru à Rome où le Seigneur l'a conduit vers Paul et c'est ainsi que Paul maintenant a fait sa connaissance et a connu son histoire et c'est maintenant qu'il écrit à Onésime de bien vouloir accepter à ce que Onésime revienne à lui et que Philémon le pardonne pour ses malfaits. Mais ici, dans Colossiens chapitre 4 et le verset 9, c'est ainsi que nous voyons mentionner. Ici, il dit dans le verset 9 de Colossiens chapitre 4, je l'envoie, ou bien verset 7, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Donc, c'était des envoyés qui passaient entre Paul et les Colossiens pour communiquer cette lettre, cette épître, et aussi se donner les nouvelles les uns des autres. Et il dit dans le verset 8, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Voilà l'amour fraternel encore, c'est la consolation d'avoir les nouvelles des autres qui sont frères et sœurs en Christ et de se consoler. Et verset 9, je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, c'est-à-dire que lorsque Paul écrivait aux Colossiens, Onésime maintenant était sur le point de retourner de Rome à Colosse Cela nous indique que, effectivement, Onésime était un des leurs. Alors, Onésime étant le serviteur de Philémon, il avait pris des biens de son maître et c'est là qu'il a couru à Rome. Tout cela était dans la providence de Dieu. Lorsque Onésime a volé et a couru, et ce n'était pas dans sa pensée d'aller rencontrer l'apôtre Paul, mais le Seigneur a fait en sorte que lorsqu'il était à Rome, qu'il a entendu la prédication de l'apôtre Paul, parce que Paul était prisonnier dans une maison qu'il avait louée. Par exemple, si vous tournez dans le livre des Actes des Apôtres, le dernier chapitre, nous voyons la liberté. Bien sûr, Paul lui-même a été emmené à Rome comme prisonnier, mais il y avait un certain temps qui a passé avant qu'il ne pouvait apparaître devant César pour juger son cas. Mais dans Actes chapitre 28, nous voyons que Paul, dans le verset 30, demeura dans 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et en toute liberté et sans obstacle. Donc voilà Paul qui était enchaîné, mais la parole n'est pas enchaînée. Les gens venaient et l'écoutaient, et c'était durant ce temps certainement que le Seigneur aurait emmené Onésime faire sa connaissance. Et certainement pendant ce temps, le Seigneur a converti son cœur par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que Philémon, en écrivant à Philémon, notez dans le premier chapitre, et les versets 11 à 13, le témoignage concernant Onésime. Il dit, dans le verset 10, commençant là, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » Nous savons qu'il ne s'agit pas là d'engendrer dans le sens physique, mais spirituellement parlant, l'apôtre Paul était l'instrument que Dieu a utilisé pour convertir Onésime. Et nous pouvons aussi penser à plusieurs que le Seigneur a emmenés vers nous et nous avons eu l'occasion de leur prêcher l'Évangile. Peut-être qu'ils étaient sur d'autres courses, poursuivant d'autres choses, mais voilà cette rencontre divine que Dieu a utilisée maintenant pour qu'ils viennent s'asseoir, écouter l'Évangile de Christ et leur cœur soit converti. Ce sont nos enfants engendrés par l'Esprit dans le Seigneur. Et nous en réjouissons. Et puis il dit dans le verset 11, adressant à Philémon, concernant son serviteur, à ce temps-là, Philémon n'avait aucune idée où Onésime s'est échappé en prenant ses biens. Mais maintenant, avec cette lettre, Philémon apprend ce qui s'est passé avec Onésime. Il dit dans le verset 11, « Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Donc, c'est ainsi que nous voyons le témoignage rendu par Paul au sujet d'Onésime et comment dans la providence de Dieu. Le Seigneur exerce sa volonté pour qu'à la fin, il y ait cet amour fraternel, non seulement avec Philémon, mais avec Onésime. Alors, il le renvoie auprès de Philémon et il prie Philémon de le recevoir, non pas comme un serviteur, comme il était auparavant, mais maintenant comme un frère en Christ. Nous voyons dans le verset 16, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Voilà encore le titre de ce message, l'amour fraternel, comme un frère bien-aimé, et qu'il y ait effectivement une réconciliation entre les deux. Il dit de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Je dis ça souvent à ceux de notre congrégation ici, à Shreveport, qu'il n'y a aucune raison qu'on devait se connaître, parce que nous venons tous de différents arrière-plans, et si c'est sur la base naturelle, on n'allait jamais se connaître, mais c'est grâce à l'Évangile qu'on s'assoit ensemble et que nous adorons le Seigneur ensemble comme des frères en Christ, quoiqu'auparavant nous étions des étrangers, on ne se connaissait pas, mais au cours de cette vie, par la providence de Dieu, il a dirigé notre chemin ensemble, et nous voilà aujourd'hui découvrant par la grâce de Dieu cet amour et cette fraternité en Christ. Alors, je voudrais voir maintenant les trois premiers versets et voir dans cette salutation comment est exprimé alors cet amour fraternel. Et c'est une bonne chose de prendre le temps de rester en contact avec ceux qui sont à une grande distance, mais néanmoins frères en Christ, et que nous partageons ensemble cet amour. Alors c'est pourquoi verset 1 de Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église, notez bien, qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici cet amour fraternel qui est exprimé. Notez, Paul s'identifie comme le prisonnier de Jésus-Christ. Cela nous montre jusqu'à quel point il était soumis à la volonté de Dieu. Il était en fait le prisonnier de Rome, mais ici, il avoue qu'il est là en prison comme le prisonnier de Jésus-Christ. Ça, c'est une belle confession, quel que soit notre état dans la vie. Il y a des fois où nous sommes libres de se déplacer et aller, et il y a d'autres fois où nous sommes limités. Mais quelle que soit la situation, nous pouvons dire que tout provient de la main du Seigneur Jésus-Christ. Et cette brève lettre a été écrite alors par Paul pendant cet emprisonnement romain que nous avons déjà vu dans Actes chapitre 28, versets 30 et 31. Alors, prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Et quelles que soient les circonstances, nous pouvons dire, oui, mais ce sont des chefs religieux et des chefs, des responsables juridiques, on peut dire, de Rome, qui l'ont emprisonné. Mais quels que soient les détails secondaires, nous savons que la première cause de toute chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il était en chaîne. Et puis, il écrit à Philémon comme un ami bien-aimé plus que ça, un frère en Christ qui vivait à Colosse. Donc voilà le lien entre Philémon et l'épître aux Colossiens que Paul avait écrite depuis Rome. Et c'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où nous voyons mentionner le nom de Philémon, soit ici dans cette épître, mais aussi à Colossiens. Mais cette amitié de Paul avec Philémon est démontrée que par quelque chose que nous voyons ici dans cette salutation. Il y a au moins 12 épîtres, certains disent 13 épîtres, pensant que Paul est l'écrivain de l'épître aux Hébreux. Personnellement, je crois que ce n'est pas Paul qui a écrit cette épître. Donc, il y avait 12 épîtres aux églises que Paul avait écrites. Et il écrivait à ces églises, mais souvent au nom des individus qui étaient attachés à ces églises. Mais dans cette épître, ensemble avec Philippe, le Philippien et Thessalonique, Paul fait appel à son lecteur plus comme un ami, voyons ce rapport-là, et moins comme un apôtre. Ici, il n'utilise pas ce terme. Dans les autres épîtres, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais ici, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Souvent, Paul appelait Timothée son fils. Mais dans ce cas, en s'adressant à Philémon, il est en train de s'adresser à Philémon comme ayant comme frère entre eux, Timothée ensemble avec Paul, frère en Christ. Et c'est ainsi qu'il s'adresse, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Donc c'est ici qu'il salue la maison de Philémon. Lorsqu'il mentionne la sœur dans le verset 2, la bien-aimée Apphia, et il appelle notre compagnon de combat. Cela veut dire qu'elle était utile en ce qui concerne le service du Seigneur et la prédication de l'Évangile. Il ne faut pas supposer par là qu'elle était une femme prédicatrice, mais dans le soutien de l'Évangile, qui a soutenu Paul et les autres qui prêchaient l'Évangile dans l'amour. Alors, il l'adresse ainsi. Certains pensent que c'était probablement la femme de Philémon. Lorsqu'il s'adresse à elle, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, il suppose qu'elle était la femme de Philémon. Et quand il dit Archippe, à la sœur Apphia, à Archippe, probablement le fils de Philémon. Mais non seulement eux, c'est ensuite qu'il s'adresse à tous les membres, non seulement de sa famille, mais c'est écrit « Et à l'Église, notons bien, qui est dans ta maison. » Lorsque certains lisent ces épîtres à ces églises, ils imaginent des grandes assemblées, mais non. Au début, il n'y avait pas ce que les gens appellent des églises aujourd'hui. Les gens se réunissaient dans les maisons, tellement leur nombre était restreint. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout est devenu, au nom de la religion, des grandes organisations. Et je dis souvent, là où l'Évangile est prêché en vérité, ceux qui se rassemblent pour écouter cet évangile seront en petit nombre. Quand vous voyez les masses qui courent derrière une religion ou bien une organisation, pour moi, on peut déjà savoir que Dieu n'y est pas. Parce que ça, c'est le grand chemin large qui mène à la perdition. Dans le chemin en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et son évangile est étroit. Et il y en a peu qui s'y trouvent. Il ne faut pas se décourager quand nous voyons les grands nombres qui courent après les masses et les grands bâtiments, les grandes organisations. Ce n'est pas là l'œuvre du Seigneur. Ici, quand c'est écrit « et à l'Église qui est dans ta maison », lorsque Paul a écrit aux Colossiens, donc on peut savoir que cette Église à Colosse était si petite que ça pouvait se retrouver dans sa maison. Philémon lui-même a ouvert ses portes pour recevoir ce que le Seigneur a tiré à Christ. Et certainement lui-même était un des responsables pour cette assemblée de Colosse. Donc c'est bien de lire ces versets et de contempler la manière que Dieu a fait son œuvre dans une partie du monde que nous ignorons. Mais néanmoins, à l'époque, il y avait là son importance à Colosse. Elle n'était pas la ville et le commerce qui se passait, mais c'était cette assemblée qui se réunissait là. Je dis ça souvent, que Dieu bénira toute une ville pour bénir parce qu'il s'y trouve ses élus qui ont besoin d'emploi et qui doivent vivre. Mais c'est la vraie bénédiction d'une assemblée, d'une ville, c'est que Dieu est là, ses élus, qu'il a amenés et placés là dans cette ville. La ville l'ignore. La ville, ceux qui passent par notre petit bâtiment ici à Shreveport, il y a une route qui passe directement devant notre bâtiment. Mais ceux qui passent ignorent. Quand ils regardent, ils voient une petite assemblée, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça ne se ressemble en rien comme les grandes religions de notre ville. Mais je dois dire que Dieu est en train de bénir cette ville à cause des élus qu'il a ici à Shreveport et qu'il s'occupe de nous. Alors, c'était comme ça à l'époque. Les églises de maison sont mentionnées souvent dans les Écritures. Par exemple, en Romains chapitre 16 et le verset 15. C'est pourquoi nous ne devons pas nous efforcer à ressembler à d'autres organisations pour dire, ah, il nous faut un grand bâtiment, il faut plein d'espace. Je dois dire que si Christ n'y est pas, alors tout ce que c'est un tombeau dans lequel on remplit avec des gens qui sont morts spirituellement. Donc, mieux vaut avoir une petite assemblée qui se rassemble pour une seule raison, et c'est pour écouter l'évangile du Christ. Ici, dans Romains chapitre 16, et le verset 5, vous voyez, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Ça, c'est l'Église à Rome. Quand on lit l'épître de Paul aux Romains, il ne faut pas imaginer une grande assemblée. Non, c'est l'Église qui se rassemblait dans leur maison. la maison de Prisca et Aquila, que Paul avait rencontrés plus tôt. Et maintenant, à travers leur témoignage, Dieu a établi cette assemblée à Rome. Donc, il dit, saluez Épaphrodite, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Voyez, l'Église s'agit des élus. Ce n'est pas fait de briques ou de ciment, mais de gens que Dieu lui-même a choisi et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Voilà l'Église. Le sens du mot Église même, c'est ceux qui sont appelés de Dieu et attirés à Christ. Et Paul ici les adresse de nom. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et même si nous ne nous rassemblons pas tous dans le même lieu ou endroit, néanmoins, nous pouvons dire que nous sommes l'Église. Nous sommes membres de ce corps de Christ. Et c'est ainsi que nous partageons en lui cette fraternité. Aussi dans Colossiens chapitre 4, verset 15. Parce que lorsqu'il écrit à Philémon de s'adresser à l'Église, il salue l'Église qui était dans sa maison, c'était l'assemblée à Colosse. Ici, dans Colossiens chapitre 4, verset 15, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Donc là où il y avait ces différents lieux tout autour de Colosse, où le Seigneur avait son peuple, donc il s'adresse à eux comme l'Église qui se réunit dans les maisons. Donc même si ces églises sont petites par rapport à ce que le monde considère, je pense souvent à Noé et sa famille. C'était un petit nombre que Dieu a sauvé à travers le déluge. Mais néanmoins, Noé et sa famille représentaient l'Église dans l'arche. Et l'arche représente le Seigneur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, qui a pu supporter le jugement de Dieu. Et Noé et sa famille étaient délivrés parce que c'est l'arche qui a pris le jugement. Ce jugement qui est tombé sur le monde, tout un monde a perdu, a péri, mais c'est Noé et sa famille qui représentent l'Église. Et c'est comme ça pour nous. Il y en a qui vont regarder le ministère de Noé parce qu'il est appelé dans le Nouveau Testament un prédicateur de la justice de Dieu. Et pendant les 120 ans qu'il devait prêcher, beaucoup vont regarder ça pour dire oui, mais Dieu n'a pas béni son ministère, parce que voilà, en fin de compte, il n'y avait que 8 personnes qui étaient préservées. Peu importe, ces 8 étaient ceux que Dieu lui-même a désignés au salut, et le reste du monde a péri. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas regarder au petit nombre que nous sommes pour dire « Ah, mais Dieu n'est pas en train de bénir ». S'il y a même un pécheur en qui Dieu révèle son Fils et pour qui le Seigneur Jésus-Christ a payé la plus grande dette avec sa vie, même cet individu est précieux aux yeux de Dieu comme un pécheur acheté. Alors voilà le sens d'une église. Si nous voulons avoir un exemple de ce que c'est une église, d'abord, premièrement, c'est composé de personnes converties par l'Esprit de Dieu. La conversion ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et une assemblée véritable, une église, est composée de ceux-là, des élus, depuis l'éternité, pour qui Christ a payé la dette, mais maintenant appelé, c'est ça le terme église, appelé à Christ. Deuxièmement, la définition d'une église, c'est que ceux qui sont membres adorent le même Seigneur ensemble. C'est pourquoi nous nous réunissons. C'est pas pour se glorifier ou se faire voir, non, mais c'est glorifier, adorer Dieu à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà une église, une véritable église. Ce n'est pas une question de combien. Ou bien on est en train de se comparer avec d'autres, non, mais le fait de se réunir avec un seul but et de glorifier Dieu à travers son Fils. Et troisièmement, ce n'est pas une organisation en tant que telle, mais un organisme comme le corps, bien lié et sous la tutelle de responsables qui ont à cœur l'édification de l'Assemblée. Ça aussi décrit ce que c'est l'Évangile. Et quatrièmement, où l'enseignement, la prédication de Christ est toujours présent. Ce n'est pas une question de programme ou d'essai de nouvelles idées que d'autres sont en train de faire pour attirer les fous. Non, c'est l'enseignement de l'Évangile. C'est pourquoi nous nous réunissons. Et tout cela, c'est à cause de la grâce de Dieu, comme nous revenons ici dans Philémon, chapitre 1, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit que la grâce et la paix vous soient données, continuellement données, c'est évident que la grâce leur a été déjà donnée en Jésus-Christ, c'est pourquoi ils se réunissent, mais que Dieu continue à les bénir dans cette même grâce. Et notez, la paix, c'est l'œuvre de Christ qui nous a donné la paix avec Dieu, nous a réconciliés avec Dieu, mais ensemble maintenant, où il y a ceux que Dieu a sauvés et délivrés par son Fils, le Seigneur Jésus, ils vivent dans cette grâce et cette paix les uns avec les autres. Voilà l'amour fraternel. Ce n'est pas quelque chose que nous organisons, mais c'est produit par le même esprit qui a attiré chacun à Christ, qui lie maintenant les membres ensemble dans cet amour. Donc, toute la gloire revient à Dieu. Notez, donné de la part de Dieu notre Père et ou bien même du Seigneur Jésus-Christ. Voilà à qui est toujours la gloire. Ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu. Alors ça, c'est l'introduction. Je prie que le Seigneur nous fortifie lorsque nous continuons dans cette étude, mais combien nous est cher cet amour fraternel que Dieu nous donne les uns avec les autres en Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de Christ et ce qu'il a accompli pour les pécheurs tels que nous sommes. Amen.